L'élection de Léon XIV, le nouveau pape Robert Francis Prévost, c'était son nom de cardinal. Il est 20h à Rome, 18h en temps universel. L'édition spéciale de RFI se poursuit avec un rappel de l'actualité qui vous est proposé par Margot Ratézic. Bonsoir Margot.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Habemus Papam.
Habemus Papam, vous l'entendez, c'était il y a 2 heures depuis le Vatican. Le nouveau pape est donc américain, c'est une première et déjà à l'étranger les réactions sont nombreuses. Donald Trump parle d'un grand honneur pour les États-Unis. Volodymyr Zelensky a également réagi espérant que le nouveau pape soutienne moralement l'Ukraine. On vous retrouve au Vatican, Cyprien Viette. Vous êtes journaliste à l'agence Immédia spécialisée sur le Vatican. C'est donc le cardinal Robert Francis Prévost qui a été élu par ses pairs. Il a choisi Léon XIV comme nom de pape. Et est-ce que, Cyprien, peut-on dire que ce choix de pape est une surprise ?
Oui, alors c'est une surprise dans la mesure où l'élection d'un pape des États-Unis avait longtemps été exclue pour des raisons géopolitiques. Mais à travers ce nouveau pape, on peut dire que c'est le visage d'une église catholique mondialisée qui trace des ponts entre le Nord et le Sud. Vous savez, il est de nationalité américaine, il est né à Chicago dans une famille d'ascendance espagnole, italienne et française, comme son nom l'indique. Prévost, évidemment, c'est un nom de racine française. Il a surtout été évêque au Pérou, à Chiclayo, qui est un petit diocèse pauvre dans lequel le pape François l'avait repéré lors d'une visite au Pérou en 2018. Et 5 ans après, il l'a appelé à Rome pour un poste administratif important, le préfet du dicastère pour les évêques, où son sens de l'écoute et de la synthèse avait été remarqué et apprécié. Et il était aussi le président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, qui est une charge très importante pour tenir le lien entre Rome et l'Amérique latine, qui reste évidemment un bastion du catholicisme dans le monde.
Cyprien Viette, est-ce qu'il y a une continuité avec le pape François sur les questions sociales ?
Il a vraiment été affirmé, peut-être pas dans le style, c'est quelqu'un en apparence un petit peu plus classique pour ceux qui ont vu les images, mais il porte vraiment cette ligne sociale et synodale du pape François, et lors de l'assemblée du synode en octobre 2024, il était apparu comme une figure capable d'harmoniser les relations entre les diocèses de vieille chrétienté de l'hémisphère nord et les territoires de...
Cyprien Viette, journaliste à l'agence Immédia, en direct du Vatican, merci à vous. Dans le reste de l'actualité, Keir Starmer salue un jour historique après un accord commercial annoncé entre Londres et Washington. Une première trêve dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'accord prévoit que les droits de douane sur les voitures britanniques reviennent à 10%. Ils avaient été portés à plus de 27% par le président américain. Les taxes sur l'acier et l'aluminium doivent-elles retomber à zéro ? L'accord sur les minerais ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre Kiev et Washington. Déclaration de Volodymyr Zelensky après la ratification du texte par le Parlement ukrainien. Cet accord sur l'exploitation des ressources ukrainiennes avait été signé après des semaines de discussions houleuses. C'était il y a 80 ans, le 8 mai 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale après la capitulation de l'Allemagne nazie. La Russie, elle, commémorera la victoire des Alliés un jour plus tard, le 9 mai. En attendant, c'est Xi Jinping qui a été reçu au Kremlin. Les dirigeants russes et chinois ont affiché leur entente. Ailleurs dans le monde, c'est en cette date symbolique du 8 mai que le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé, je cite, les mensonges historiques du Kremlin. Berlin accuse Moscou de chercher à justifier l'invasion de l'Ukraine au nom de la lutte contre le nazisme. En France, les traditionnelles commémorations ont débuté il y a 3 heures au pied de l'Arc de Triomphe. Nous n'aurons jamais fini de défendre la paix, a déclaré Emmanuel Macron. 2 jours de violentes confrontations militaires entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad a mené une nouvelle série de frappes sur le Cachemire indien. Des sites militaires ont été visés, a fait savoir l'armée indienne. Les deux pays se sont accusés mutuellement ce jeudi d'attaques de drones sur leur sol respectif. Restez à l'écoute de RFI tout de suite. Notre édition spéciale se poursuit après la nomination du pape Léon XIV, premier pape américain. Édition spéciale à suivre avec vous, Guillaume Ouattara.
Merci beaucoup, Margot Ratézic. Il est 20h05 à Rome. Nous poursuivons cette édition spéciale consacrée à l'élection du nouveau pape.
RFI Soir.
Édition spéciale.
Guillaume Ouattara.
Et nous avons donc un nouveau pape, le monde catholique a donc un nouveau pape, Léon XIV, l'ancien cardinal américain Robert Francis Prévost, qui a été élu 267e souverain pontife par les quelques 133 cardinaux réunis en conclave. Il s'est exprimé il y a quelques minutes depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre devant une foule immense rassemblée sur cette place Saint-Pierre et des millions de fidèles à travers le monde. Une première prise de parole placée sous le signe du dialogue et de la paix. Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Église catholique, je vous propose justement qu'on prenne la direction de Rome avec vous, Véronique Guémard, bonsoir. Il y a du monde et il y a surtout une ambiance très très forte là où vous vous trouvez.
Oui, effectivement, là les gens commencent à partir, à quitter la place, puisque le nouveau pape Léon XIV a pris la parole. Et là, effectivement, il y avait énormément de monde, des gens qui se sont précipités d'ailleurs dès l'arrivée de la fumée blanche, dès cette vision, puisque toutes les caméras du monde étaient un peu braquées hein, sur cette cheminée. Dès qu'il y a eu la fumée blanche, et c'était à la grande surprise que ça arrive aussi rapidement au bout du quatrième tour de scrutin seulement. Donc un pape plutôt de consensus sans doute, mais quand même dans la continuité du pape François. Certains me disaient cela donc en chemin. Mais il y avait effectivement une effervescence, beaucoup de personnes qui ont apprécié aussi son discours, ses premières paroles hein, qu'il a prononcées à la loggia de la basilique Saint-Pierre et cet appel justement avec ces paroles de paix, d'appel à la paix. Donc on sent qu'il y avait effectivement une volonté peut-être d'apaisement, de rassemblement, et c'est ce que beaucoup demandaient hein, quand on leur posait la question avant l'élection du pape François. Beaucoup demandaient justement cette volonté d'unité, de rassemblement, d'apaisement peut-être aussi entre différentes tendances dans l'Église catholique. En tout cas, c'est l'effervescence qui continue et les personnes maintenant commencent à repartir de la place Saint-Pierre.
Merci beaucoup Véronique Guémard en direct de Rome pour RFI. On va vous retrouver tout au long de cette soirée, toujours avec nos invités, Pierre Diarra, théologien anthropologue des religions, Arnaud Alibert, rédacteur en chef de La Croix, prêtre assomptionniste, et Geneviève Delru, journaliste spécialiste des religions que les auditeurs de RFI connaissent très bien parce qu'elle a été très longtemps une des voix de notre antenne. À l'instant, cette réaction du président français Emmanuel Macron, moment historique pour l'Église catholique et ses millions de fidèles, au pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j'adresse un message fraternel, voilà ce que dit Emmanuel Macron sur X, il espère en ce 8 mai que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Je me tourne vers vous Arnaud Alibert, si vous deviez dresser en quelques mots le portrait de Léon XIV, comment vous le décririez sur le plan idéologique, sur le plan du parcours, qui est ce nouveau pape?
Alors c'est un homme qui, dans le caractère réservé et l'allure très digne finalement, donc ne disent pas combien il est intérieurement polychrome, combien c'est quelqu'un qui n'est pas dans son sillon en train de défendre une idée, une idéologie. C'est un homme extrêmement ouvert. Donc alors son ascendance est marquée par la diversité. On le redit, hein, son père est d'ascendance est donc français, mais d'origine aussi italienne. Sa mère est plutôt espagnole. Lui, il est né à Chicago. Il a vécu au Pérou. Il parle plusieurs langues. Il parle évidemment l'anglais, l'américain, le français, l'italien, l'espagnol. Il lit l'allemand. Il lit le latin. Donc c'est un homme extrêmement cultivé qui est prêt à dire bonjour et à n'importe qui, si j'ose dire, en tout cas dans toutes les langues. Donc c'est un homme extrêmement, extrêmement large d'esprit. C'est un homme aussi qui a eu une mission qui n'a pas été facile. Il est allé au Pérou, donc on va dire comme missionnaire, comme religieux. Il a été nommé évêque au Pérou. On sait que le Pérou donc a vécu des moments difficiles hein, dans sa période politique, où la question de lien de l'Église avec la dictature a mis extrêmement d'extrême tension dans l'Église. Lui, ça a été un homme pacificateur. Il a été repéré, on va dire, assez sur le tard par le pape François, puisqu'il est cardinal que depuis un an. Et on voit bien que en un an, il a su rassembler et être un homme d'unité. Donc, porteur d'espoir pour le collège des cardinaux, ce qui fait que je pense que nous avons là un homme de 69, 70 ans qui va faire avancer l'Église assez vite. Et comme cela a déjà été dit, à sa manière, mais sur la voie ouverte par le pape François.
Geneviève Delrue, il n'empêche que c'est un choix. Il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix, évidemment. Hein. C'est le choix des cardinaux, mais c'est un choix. Oui.
Il peut y avoir de mauvais choix, il y a de mauvais papes quand même.
Ah oui, Arnaud, on ne fera pas le contraire. Dans les 266, on va bien en trouver un ou deux qui ne sont pas bons.
Du côté des Borgia, c'était pas terrible quand même.
Hein. Mais en tout cas, c'est un choix qui est un peu surprenant, parce que ce n'est pas le profil forcément qu'on attendait, même si on dit souvent, alors c'est la phrase, hein, on entre pape au conclave et on en ressort cardinal, donc il n'y a pas de vérité absolue avant. Il n'empêche.
Oui, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à un pape américain. Arnaud, semble-t-il que vous aviez parié sur lui, bravo.
Le profil humain, en fait, avait retenu mon attention. Mais c'est vrai que j'avoue que prendre comme pape un citoyen de la première puissance économique, politique et militaire du monde, c'est un choix audacieux. Ça veut dire que les cardinaux ont senti en lui et en eux une suffisante liberté pour dire... On est bien quelque part, il n'y a aucun souci, mais on peut s'en libérer, on va dire, par la foi, par les rencontres, et donc il n'est pas dépendant de son origine.
Pierre Diarra.
Oui, je trouve quand même qu'il avait une responsabilité au niveau du Vatican, donc du dicastère pour les évêques, ce qui est une place quand même importante dans l'Église, en ce sens qu'il fédère la communion, l'unité et la responsabilité aussi de tous ceux qui sont dans le monde et qui sont chargés de gérer avec le pape, cette dimension missionnaire, mais aussi cette dimension administrative et tout ce que les chrétiens font au niveau de la base, et qui fait que il était bien placé, même si, bon, on fait pas de pronostic, il était bien placé pour que, déjà, les cardinaux le connaissent bien, et que l'ensemble des évêques du monde aient déjà une certaine confiance en lui. Et le père Arnaud disait tout à l'heure qu'on sentait en lui quelqu'un qui avait une bonne écoute, un peu comme le dernier synode l'a souhaité, que l'Église soit à l'écoute des petits, des pauvres, mais aussi que les évêques entre eux, ils puissent s'écouter. Donc tous ces aspects aussi étaient importants, il me semble, par rapport à sa nouvelle responsabilité.
Alors on va prendre dans un instant la direction du Pérou, puisque vous le disiez tout à l'heure, quel est le lien qui unit ce nouveau pape au Pérou, Geneviève ?
Il y a été missionnaire, il y a vécu même un certain nombre d'années, donc évidemment le Pérou doit se sentir concerné ce soir.
Et il a la nationalité péruvienne, donc c'est-à-dire qu'il a été naturalisé, il est donc représentant, ça veut dire que on a un pape des Amériques au sens large.
Encore un petit peu latino, j'allais dire. Encore un peu latino-américain.
Et ça représente quoi ? C'est important, Arnaud Alibert, cette ouverture de ce pape, le fait qu'il soit pas... voilà, on se demandait, parmi tous les scénarios qui étaient possibles, si on aurait à nouveau un pape italien pour que ça revienne un peu, entre guillemets, à la maison. Pas du tout.
Ben alors vous voyez qu'on n'arrive pas à se défaire complètement de l'Italie, parce qu'avec Bergoglio, qui avait des grands-parents italiens, lui qui a un père d'ascendance italienne... Alors moi, ce que j'avais du mal à envisager, c'était un pape soit asiatique, soit africain. Alors, parce que ces grandes régions-là sont des régions qui sont travaillées par des forces sociétales, par des défis sociétaux qui sont immenses et qui d'une certaine manière, en fait, prennent toute l'énergie. Je n'arrivais pas bien à envisager comment un cardinal issu de ces régions-là pourrait s'extraire pour avoir une vue mondiale, parce que c'est bien le défi qui lui est lancé. C'est pourquoi, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne croyais pas du tout à la candidature, à la possibilité d'élire le grand Pierre Battista Pizzaballa. Quand je dis grand, parce que c'est un homme extrêmement profond, qui est actuellement patriarche latin de Jérusalem, on pourrait dire un saint, mais aussi trop marqué d'une certaine manière par le conflit israélo-palestinien. Donc ils ont cherché une personnalité large et ils l'ont trouvée.
On va tout de suite écouter les fidèles, puisque ce sont les premiers concernés par cette élection du nouveau pape, Léon XIV. Qu'en pense-t-il? C'est ce qu'on va voir avec vous, Baptiste Coulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où l'on a accueilli la nouvelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé.
Oui, à 1500 kilomètres de Rome, d'abord en écho au tintement des cloches de la basilique Saint-Pierre, celles de Notre-Dame se sont mises à sonner au moment de l'apparition de la fumée blanche, et à l'intérieur de la cathédrale, en pleine messe, c'est le prêtre en personne qui a relayé la bonne nouvelle aux fidèles. Thérèse assistait à l'office, elle nous raconte.
C'est vrai qu'en rentrant, j'ai dit à mon ami, oh, ce serait vraiment extraordinaire que cette annonce arrive pendant la messe, et c'était le cas, voilà. Et puis, ben, la réaction en direct, puisqu'ils nous ont dit Habemus Papam, et tout le monde a applaudi, donc voilà, c'était vraiment une réaction de joie pour tous. Et puis évidemment, ben, il nous a dit on va changer de messe, voilà, donc adaptation immédiate pour accueillir cette bonne nouvelle.
Cette bonne nouvelle que Charles ne s'attendait pas à connaître aussitôt, il participait lui aussi à la messe avec ses enfants au moment de l'annonce.
Un peu décontenancé parce que on avait entendu il y a quelques heures que la fumée noire était sortie, donc le vote n'avait pas été au bout de la nomination. Donc ravi de l'entendre. On s'en souviendra en fait, c'est de se dire qu'on a effectivement appris la nomination de ce nouveau pape, l'élection de ce nouveau pape pardon, en étant à Notre-Dame. En tout cas, je pense que ça restera dans leur esprit.
Alors pour le moment, Léon XIV, ça ne dit pas grand-chose aux personnes que je croise, sauf peut-être à ce couple d'Américains que j'ai rencontré il y a 5 minutes à peine. Ils viennent de Détroit et ils me racontaient évidemment toute la fierté d'avoir aujourd'hui un pape américain donc.
Merci beaucoup Baptiste Coulon en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On a donc entendu ces fidèles et cette joie qui résonne dans leur voix. On en parlait il y a quelques instants de ce lien fort avec le Pérou de ce pape qui a été archevêque là-bas, qui est naturalisé. Alors je vous propose qu'on aille tout de suite au Pérou retrouver notre correspondant Martin Chabal. Bonsoir Martin. Martin Chabal, est-ce que vous m'entendez bien ? Martin Chabal, notre correspondant au Pérou, qu'on va retrouver dans une demi-seconde. Est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis toujours avec vous.
Eh ben, parfait. Eh ben, on vous entend parfaitement. Donc, on le disait, un pape qui a des liens très forts avec le Pérou. On imagine que dans les médias, dans la rue et dans la population, c'est une très grosse effervescence.
Oui, parce que oui, le pape est américain, il est américain, mais pour le Pérou, il est surtout péruvien. Il a encore sa carte d'identité péruvienne, d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on peut lire partout dans la presse au Pérou depuis que Robert Francis Prévost, Léon XIV, s'est présenté à la Loggia des Bénédictions. Et preuve de l'importance du Pérou dans sa vie, il n'a pas attendu longtemps pour en parler. Il a salué en espagnol son diocèse péruvien de Chiclayo, dans le nord du pays, où il était évêque depuis 2014, nommé par le pape François. Et le Pérou, c'est un pays qu'il connaît bien, il y était déjà dans les années 80 où il a longtemps enseigné le droit canonique, et même s'il retourne en 99 à Chicago, sa ville natale, il revient au Pérou en 2014 donc, et on va dire que Chicago, ça ressemble un petit peu à Chiclayo dans les sonorités. Pour le Pérou, c'est un vrai moment d'émotion. Si le pape François était déjà un souverain pontife aimé par tous pour ses racines sud-américaines, là, même s'il est américain, Léon XIV a encore sa carte d'identité péruvienne. Et les prochains jours devraient être célébrés dans tout le pays encore très catholique. Beaucoup s'attendent à une visite assez rapide du nouveau pape au Pérou. D'autres espèrent qu'il dira un jour s'il supporte l'un des clubs de foot du Pérou. Les cloches de Chiclayo ont d'ailleurs commencé à sonner dans l'église de la ville. Mais vraiment, cette mention du Pérou dès son premier discours a créé beaucoup d'émotions. Il y a vraiment eu beaucoup de joie chez les Péruviens.
Merci beaucoup Martin Chabal. Je rappelle que vous êtes le correspondant de RFI au Pérou. Je me retourne vers vous pour une question peut-être un peu théologique, Arnaud Alibert. Vous avez commencé à en parler il y a quelques minutes, mais j'aurais comprendre. François était donc jésuite, Léon XIV est augustin. Qu'est-ce que ça change concrètement, ces appartenances à des ordres religieux?
En fait, vous me posez en fait la question de à quoi sert une spiritualité. Quand on parle de la foi catholique, mais n'importe quelle foi, en fait, elle donne accès à l'universel à partir d'une conscience humaine qui cherche Dieu. Mais il y a 1000 chemins pour aller à Dieu. D'ailleurs, lui, il a parlé d'un pont entre nous et Dieu et son amour. La spiritualité est une manière d'organiser ce chemin, et la spiritualité augustinienne part du principe que Dieu habite en nous. Il est notre hôte intérieur. C'est comme si nous avions un invité permanent à l'intérieur de nous et qui, à l'intérieur de nous, comme dit saint Augustin, nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, il faut rentrer en dialogue avec cet hôte intérieur, donc que saint Augustin appelle le Christ, et qui vient nous enseigner. En fait, l'extérieur peut nous alerter, peut même nous effrayer, dit saint Augustin, et l'intérieur nous enseigne. Voilà, in tous docet. Et ça fait partie des grands éléments structurants de la pensée augustinienne, ce qui fait que on va très vite penser et voir, constater que le pape Léon XIV, voilà, va en appeler à la liberté des personnes, ce qui fait que on va pas pouvoir dire c'est un progressiste parce que il est social, il est effectivement social, missionnaire, etc. Mais il va être aussi libéral parce qu'il va faire appel à la liberté intérieure. Donc c'est pas le libéral au sens libéralisme économique, mais au sens presque des Lumières. Et vous allez voir qu'il va être assez conservateur parce que, au nom de cette présence de Dieu en nous, eh bien, les grandes données de la vie ne changent pas. Et donc, il va avoir le même discours sur tout être est une histoire sacrée, tout être est absolument digne. Donc, on ne touche pas ni aux enfants, ni aux fœtus, ni aux personnes en fin de vie. Vous allez voir que il y a des personnes qui vont le trouver désespérément conservateur parce qu'il va tenir, peut-être pas avec les mêmes mots, mais la même position que tenait François ou même Benoît XVI avant lui.
Arnaud Alibert, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de La Croix. Vous avez la une de demain, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous la dévoiler?
Ah ben bien sûr, avec un grand plaisir. La une, c'est le pape, donc Léon XIV. Donc on met pas le pape, c'est Léon XIV, le missionnaire devenu pape, parce qu'on fait référence au fait qu'il a eu cette itinérance dans sa vie pour aller au service du Pérou, mais en fait, il a vécu aussi ses autres expériences comme des itinérances, même quand il a été nommé supérieur général de l'ordre des Augustins, et même quand il a été nommé récemment à Rome au service du pape. Du peuple défunt, François.
18h22 sur RFI, 18h22 en temps universel, la suite de votre édition spéciale consacrée à l'élection de ce nouveau pape, Léon XIV, le cardinal américain Robert Francis Prévost. Ce premier pape, c'est peut-être le premier enseignement qu'il faut retenir, premier pape américain, mais un pape américain multiculturel, revendiqué par le Pérou, par son appartement et sa naturalisation, revendiqué par l'Italie, par la nationalité de sa mère, et revendiqué aussi par la France, puisqu'on disait qu'il a des origines françaises, donc c'est un pape de partout, c'est finalement peut-être le bon choix pour représenter toutes ces nationalités, Geneviève Delrue.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'appelle Prévost, en effet, que la France peut s'enorgueillir, mais c'est vrai, oui, bien sûr, il répond en effet à ce multiculturalisme, on va dire, que recherche l'Église. Ça, c'est certain.
Je vous propose qu'on prenne la direction de Rome avec notre envoyé spécial Nicolas Rocca. Rebonsoir Nicolas Rocca, vous vivez évidemment cette soirée avec nous. Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a toujours de la foule? Est-ce que les fidèles sont un peu partis? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, les fidèles ont commencé...
Eh bien, malheureusement, on a des petits soucis de liaison avec vous, Nicolas Rocca.
En tout cas, il y avait la foule.
Il y avait de la foule. Et alors, il y a deux choses qui expliquent ces liaisons un peu capricieuses avec le Vatican. La première, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de téléphones qui sont activés. Et la deuxième, c'est une spécificité, c'est que pour le conclave, il y avait des brouilleurs qui ont été mis en place et donc qui peut-être interfèrent. Nicolas, je crois qu'on vous a retrouvé. On espère que les brouilleurs sont en train d'être désactivés. Alors, dites-nous un petit peu ce qui vous disent ces fidèles.
Mais je vous entends. Et les fidèles m'ont dit d'abord été assez incrédules.
On reviendra
vers vous plus. Francis Prévost était français. Il y avait des échanges ensuite sur sa personne, son parcours. Les gens s'interrogeaient pour savoir qui il était. Et quand il est apparu au balcon, c'était un vrai moment d'émotion pour tous les fidèles qui étaient autour de moi. Vous pouvez écouter Émilie, une Française qui était encore sous le choc de cette journée qu'elle a passée presque intégralement en place Saint-Pierre.
Bah, beaucoup d'émotions. C'est très fort d'être en communion avec tout le monde. Il y a tout le monde à Saint-Pierre et c'est très très beau. Beaucoup d'attentes et puis c'est vraiment de la joie d'avoir tout le monde ici, c'est très 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 beau.
Il a beaucoup parlé de paix, comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez entendu sa parole?
Bah, c'est un message qui résonne beaucoup. Il a parlé de paix, il a parlé d'une église en chemin, une église en synode. Et c'est, c'est, je pense, ce qu'on attend aujourd'hui. C'est une église qui se mobilise ensemble pour la paix. Et c'est vrai. Enfin, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle beaucoup.
Oui, ces mots de paix sont revenus. Hein. Tous ont salué aussi les mots qu'il a pu avoir pour son prédécesseur, le pape François. Il y avait des Péruviens également autour de moi. Vous l'avez entendu avec Martin Chabal, il y avait de la joie au Pérou. Mais ici aussi, il y avait des Péruviens qui ont crié quand il a salué le diocèse dans lequel il a passé du temps en tant que missionnaire. Certains m'ont demandé si sa mère n'était pas péruvienne. Et d'autres étaient inquiets de voir un Américain arriver au Saint-Siège. Ils craignaient l'influence de l'Église américaine sur le Vatican ou bien sa proximité avec Donald Trump. Il y a eu énormément d'échanges pour tenter de cerner qui était le futur pape. Après, il y avait également énormément d'Américains très joyeux qui criaient « amazing, incredible ». D'autres étaient larmes aux yeux. Et un frère Augustin italien m'a confié avec un grand sourire aux lèvres qu'il était satisfait de voir quelqu'un arriver avec un parcours de missionnaire, un profil certes d'Américain, mais en même temps qu'il avait pu passer une grande partie de sa vie à l'étranger.
Merci beaucoup Nicolas Roquin, on va vous retrouver évidemment dans cette spéciale en direct de Rome pour nous faire vivre l'élection de Léon XIV. On continue le tour du monde puisque c'est ça aussi la papauté, c'est un rayonnement mondial et si les projecteurs sont braqués à Rome, c'est bien en Afrique aussi que bat une grande partie du cœur de l'Église catholique car le continent et notamment la République démocratique du Congo figurent aujourd'hui parmi les terres les plus vivantes du catholicisme mondial. Et on vous y retrouve en RDC, Pascal Moulégois, bonsoir.
Bonsoir.
C'était très attendu aussi l'élection de ce nouveau pape et j'imagine que la rapidité de l'annonce a plu aux fidèles et que la ferveur est au rendez-vous.
Ah oui, précisément, là je me trouve à la cathédrale Notre-Dame du Congo où les sons des cloches a résonné pendant de longues minutes marquant l'annonce tant entendue, l'élection du nouveau pape. Dans la cour de la paroisse, plusieurs femmes, les yeux rivés sur leur téléphone, laissaient éclater leur joie en découvrant les visages du successeur de François. Un mélange des surprises et des curiosités se lisait sur les visages. Mais un peu plus tôt, j'étais à l'université de l'archidiocèse de Kinshasa. Là-bas, étudiants et membres du personnel nourrissaient l'espoir de voir émerger un pape venu du Sud, peut-être même un Africain, comme le cardinal Fridolin Bongo, qui est très respecté ici au Congo. Contre toute attente, c'est l'Américain Prévost qui a été choisi. Une surprise pour de nombreux Congolais qui ne l'avaient pas vu venir, mais certains fidèles que j'ai rencontrés m'ont confié qu'il parlait français, moi je ne le savais pas, et occupait jusqu'ici une position influente, préfet du dicastère pour les évêques, un pape religieux, homme des compromis, issu d'un pays réputé conservateur sur des questions sociétales au sein de l'Église. Sa première déclaration, Urbi et Orbi, le mal ne gagnera pas à donner le ton, et plus aux fidèles qui les suivaient en direct à Kinshasa. Nos éditions matinales en feront écho. Beaucoup de catholiques ici espèrent que le pape Léon XIV marchera dans les pas de son prédécesseur François, un pontife engagé pour les plus démunis, attentif à l'Afrique et aux pays meurtris par les conflits, un pape ouvert au dialogue interreligieux.
Merci beaucoup Pascal Mulégois, notre correspondant RFI en RDC. Merci pour cet éclairage. Alors on continue avec les réactions à l'international et cette réaction du président israélien Isaac Herzog qui dit espérer un renforcement des liens entre son pays et le Saint-Siège après l'élection du pape Léon XIV. Nous aspirons à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège ainsi que l'amitié entre juifs et chrétiens en Terre Sainte et dans le monde entier. Je vous propose justement qu'on comprenne la direction de Ramallah en Cisjordanie, à une quinzaine de kilomètres au nord de Jérusalem, où l'on va retrouver notre correspondante. Ça sera dans quelques secondes qu'on va retrouver notre correspondante à Ramallah. Avant ça, nous sommes rejoints en plateau par Amélie Tullet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour dresser un petit peu ce portrait du nouveau pape. L'Américain Robert Francis Prévost devient le nouveau pape et il a donc choisi de prendre le nom Léon XIV.
Et voilà, on rappelle, donc à 69 ans, il devient le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique. Il a étudié au petit séminaire des religieux de Saint-Augustin, un ordre auquel il est resté attaché, diplômé en mathématiques, en théologie. Il fut missionnaire au Pérou, en Amérique du Sud, dans une zone reculée dans les années 80, une expérience qui l'a profondément marqué. Il va revenir d'ailleurs au Pérou pendant des années. En 2001, il est élu en 20 minutes seulement supérieur de l'ordre des Augustins au niveau mondial, donc déjà une élection rapide. En janvier 2023, à la surprise générale, le pape François, à qui il a fait très bonne impression, l'élection. En audience privée, l'élève au rang d'archevêque et le nomme préfet du dicastère pour les évêques. Au total, il fut membre de 7 dicastères de la curie, ce qui montre la grande confiance que lui témoignait son prédécesseur.
Amélie, que peut-on dire de son profil et de son positionnement ?
Alors, le nouveau pape Léon XIV est considéré comme relativement progressiste. Ses interlocuteurs louent son sens de l'écoute.